France Inter.
Vous faites quoi ?
On jardine.
Ah, oh, j'adore ça. Je vais vous aider.
CO2, mon amour.
Ah non, non, ça va bien, merci. J'ai pas besoin d'aide.
Ouais, ça, je le coupe.
Tu touche pas à mes haricots.
Bon, bah, je vais couper les mauvaises herbes alors.
Denis Chessou.
Mais ça, c'est pas des mauvaises herbes, c'est des carottes.
T'as des parasites énormes dans tes buissons.
C'est une tomate, ça.
Eh ben, j'ai stoppé ton invasion de tomates.
Bon, bah, qu'est-ce que je peux faire maintenant ?
Sur France Inter.
Ben surtout, ne plus rien toucher. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir. C'est au de mon amour, la nature qui chuchote à vos oreilles. Avec Loïs Moreau à la technique, notre collaboratrice est Camille Blanès, Thierry Dupin a choisi les disques et c'est Juliette Gou qui réalise l'émission. Ah, quelques mots sur Hippolaïs polyglotte. Ah, à moins d'avoir vécu au fond d'une grotte ou d'un abri anti-atomique, et sans être ornithologique patenté, tout être humain un peu éclairé a vu, entendu parler quand même du rouge-gorge, ou poitrail en fait orangé, du merle noir, ça ce sont des oiseaux encore communs, populaires, faciles à identifier. Mais beaucoup plus rare sera celui qui pourra disserter à propos de l'Hippolaïs polyglotte, sorte de fine fauvette gris-brun olivâtre, et le dessous jaune, couleur safran pâle, qui hante les bosquets assez touffus à l'égard des activités humaines. Et c'est bien dommage, car c'est, comme son nom l'indique, une incroyable concertiste, avec un chant parfois précipité à toute allure. Et quand on connaît les tarifs de certaines grand-messes musicales électro-acoustiques, eh ben il serait dommage de s'en priver, parce que là, c'est gratos. Alors, il n'a pas la renommée internationale du fameux Rossignol, mais il sait, planqué au creux du taillis d'épineux qui lui sert de repère, nous offrir 10 minutes de solo de batterie, effet de fond de gorge, improvisation jazzy endiablé, roulade et roucoulis, piqué d'imitation du meilleur effet. Cohabiter une grosse soixantaine d'années sur cette bonne vieille terre et passer à côté de ces divertissements relève, disons-le, un petit peu du gâchis. Donc il faut se dépêcher d'y songer avant qu'il ne soit trop tard, car l'Hippolaïs polyglotte parle toutes les langues du monde, mais il sait mal défendre son statut d'insignifiance. Et oui, il a peu d'amis, il est en train de disparaître du paysage sonore comme la plupart des oiseaux nicheurs campagnards, victime de la faim des insectes et des destructions du milieu sauvage. Merci à notre agriculture, si respectueuse du vivant, qui nourrit 40% à l'exportation, sans pour autant nous rendre autonomes. Alors, disparu, perdu pour tout, toujours, dans la différence quasi générale d'un grand public ignorant jusqu'à sa simple existence, et c'est presque normal. D'ailleurs, moi-même un peu affûté, allez, bon, sur la nature, je découvre parfois l'existence d'un animal quand on m'annonce son avis de décès dans la rubrique nécro des journaux. Alors bien sûr, l'intelligence artificielle l'aura mis en conserve, elle saura nous restituer à la demande ses lignes mélodiques, cela restera mécanique et figé dans le temps, une relique. Car l'oiseau discret, enthousiaste et généreux, est capable chaque jour d'improviser, d'enrichir ses phrases de mille subtilités. Bref, vous ne subirez pas deux fois la même rengaine et on est très loin donc d'une playlist. Cette explosion de notes colorées, hymne à la joie, est un hymne aussi à la vie. Une fois le maestro repéré, sans trop le déranger, posons-nous au printemps dans l'herbe bientôt tiède, écoutons-le chanter. Lui, pour tenter de séduire une dame qui passe, bah il va lui raconter son voyage et son périlleux retour d'Afrique, où là-bas, non plus, la vie n'est pas douce. Alors je vous raconte tout ça aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai des oiseaux plein la tête et le cœur. J'étais mardi en baie de Somme avec mes amis les chanteurs d'oiseaux et écoutez-les les deux prochaines semaines dans CO2 Mon Amour, je peux vous assurer qu'ils vous feront plus que du bien. Qu'il est bien, notre Hippolaïs polyglotte. Aujourd'hui, donc, plus montagneuse sera l'Ardèche avec les mots de Marion Fayolle, dessinatrice et jeune autrice originaire des Hauts-Plateaux.
Noir, volontaire, viens.
Bel univers de Laura Cahen, donc sur France Inter, dans C'est haut de mon amour, quitter la ville, c'est ce que nous faisons aussi avec Marion Fayol.
Alors, sous les yeux, déjà, on voit très 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 loin. On a l'impression qu'on est dans un espace très ouvert, presque sur un toit. On voit des champs, il n'y a pas beaucoup de... Il y a quelques sapins, mais il n'y a pas énormément d'arbres. C'est un endroit où il y a du vent, donc la végétation, elle a du mal à résister.
À faire sa place.
À faire sa place. On voit aussi des vaches au loin, quelques chevaux et des toits de ferme. Des toits très pentus pour accueillir la neige avec des murs en pierre, avec des toutes petites fenêtres et des toits qui sont presque... Le bâtiment n'est presque qu'un toit en fait. Moi j'ai grandi dans la vallée de l'Eyrieux, qui est dans le trou en fait.
Voilà, c'est ça.
Et mes grands-parents avaient une ferme qui est encore dans la famille, mais dans laquelle j'ai passé toute mon enfance au pied du Mont Foll. Toute mon enfance, je me sentais un peu à l'étroit dans la vallée et j'attendais les week-ends et les vacances pour monter tout en haut avec le sentiment comme ça que tout d'un coup l'horizon s'ouvrait et que j'atteignais comme un peu un espace, un monde un peu parallèle, un grand désert et à la fois un lieu auquel je suis très fortement attachée aujourd'hui encore.
Bienvenue entre la vallée du Rhône et les hauts plateaux du Massif central. Alors là, les hirondelles peuvent encore bâtir leur nid sur la poutre de l'étable. Elles peuvent accrocher leur maison d'été, réfugiée en compagnie des vaches. Et avec leur fabrique, faite de flaques et de terre, elles sont là. Et pourtant, que la montagne est belle, avec ses murettes, ses banquettes, ses faïs le long des pentes, arrachant à la montagne donc un peu de terre nourricière. Marion Fayol a 36 ans, dessinatrice de presse, formée à l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, autrice de BD, et là, donc récemment romancière, une fille qui est donc née à Saint-Sauveur de Montagu. Le Mont Mézenc n'est jamais loin, il domine la situation, comme le Mont Gerbier de Jonc et les deux se toisent toujours au loin en ayant passé un accord. Alors l'Ardèche, son nom on le sait, vient de la rivière qui prend haut sa source avant de réjouir les canoës, mais bien plus bas dans ces gorges profondes du sud. Bon, population donc qui est plutôt rurale, on le sait, et nous sommes dans le nord-ouest, dans le Haut-Vivarais, plutôt cristallin, humide et vert. Et en altitude, les villages sont mordillés par le soleil d'été, alors que ceux du sud, eux, sont carrément mordus par le soleil. Vient de sortir en folio son très joli livre, du même bois, avec sa montagne qui se lézarde d'avoir voulu se taire. Alors Marion y met des mots. La forêt, la terre, les bêtes poussent à l'intérieur des gens sans qu'ils le sachent. La nature rebat les cartes, fait naître à la fois de la force et de l'humilité, puisqu'on est en Ardèche. Et dans cette ruralité, vous avez un grand-père qui parle avec ses silences, sauf quand ça concerne les bêtes. Alors venez prendre l'air à 800 mètres, là, une ferme qui sait le vent, la neige, une ferme et son regard de pierre nous attend.
Ce que je trouvais beau dans ce bâtiment, c'est que c'est un bâtiment qui abrite toutes les générations et dans lequel vivent à la fois les enfants, les jeunes, les personnes âgées, mais aussi les bêtes. Et pour moi, les bâtiments et les architectures, ça raconte beaucoup de la pensée, de l'organisation sociale. Et ce bâtiment-là, il est presque symbolique parce que finalement, sous la même charpente, il y a toute une famille qui est tenue entre elles et qui vit ensemble. Et c'est ce que je voulais aussi raconter, à la fois le lien intergénérationnel et aussi comment, dans ce lieu-là et dans ce bâtiment-là, on fait presque toute sa vie dans la même maison,
en avec un déroulé.
On se déplace pas au sein de la France ou au sein du monde. On se déplace juste au sein du bâtiment et d'ailleurs dans le sens de l'écriture.
Oui, c'est vrai.
Pour les températures, elles seront extrêmement douces pour la saison.
Maman, arrête cette radio, s'il te plaît.
Mais bien sûr, je vais changer de radio. Je vais nous mettre un peu de musique.
Nous vous manque, tout est dépeuplé.
Ah d'accord, donc on commençait là petit, ou alors non, lorsqu'on était déjà en activité, et c'est après que ça glissait, là, de gauche à droite à...
Oui, c'est ça. Les actifs étaient toujours d'un côté avec les enfants et puis les personnes à la retraite de l'autre côté. Ouais. Et quand les anciens mouraient, les jeunes étaient devenus anciens, donc prenaient la place des anciens et ainsi de suite. Ouais. Avec à chaque fois aussi les enfants qui circulaient entre les deux, parce que moi, je me rappelle beaucoup d'avoir fait des navettes avec la grand-mère qui a cuisiné la bombine pour les jeunes qui travaillent, et donc les enfants qui emmènent à manger et qui ramènent la gamelle une fois vide. Et voilà, c'est va-et-vient à souvent dialoguer ou à prendre soin de l'autre par la nourriture.
Vous avez dit la bombine, donc c'est...
Oui, la bombine, c'est un plat paysan avec des pommes de terre et beaucoup de beurre aussi, et du thym, du laurier.
Il faut préciser une chose, c'est que nous sommes ici dans cette Ardèche, donc dite au beurre, parce qu'on a donc ces vaches, il fallait de la matière grasse, je dirais en opposition avec celle du sud, celle du côté des Vences, du côté de la Blachère, etc. Donc ça, c'est de l'Ardèche à l'huile, parce qu'il y a des oliviers. Et là, on voit bien aussi, avec cette bâtisse-là que l'on a, ça rigole pas, la force des murs qui sont évidemment épais. On est dans un climat de rude ici, hein.
Oui, il y a quelque chose qui se mérite, en fait. Le paysage, il est agressif pour les humains, il est présent. Il y a des orages, il y a la burle aussi en hiver qui isole les gens, qui rend certains endroits complètement inaccessibles.
C'est
un
vent tournoyant, qui fabrique des congères.
C'est ça, qui emporte la neige jusqu'à complètement modifier le paysage en créant des congères, des espèces de vagues blanches comme ça, partout sur l'étendue. Et quelque part, ça rend aussi ce territoire attachant, parce qu'on a du mal à retrouver ça ailleurs. La nature ici, on ne peut pas l'oublier, en fait. On est obligé de composer avec.
Oh, les saisons. Oh, les saisons. Je ne me lasse pas d'en rêver les odeurs.
C'est un pays d'abord pauvre. C'est un pays âpre, dur. Alors, en même temps, il y a une sorte de générosité qui se dégage de beaucoup de paysans de l'Ardèche. En même temps, ils sont pas faciles à gagner, si j'ose dire.
Les saisons,
ce que j'adore, c'est quand on parle de solutions fondées sur la nature, parce qu'on a l'impression qu'on redécouvre la poudre, et tant mieux après tout, pourquoi pas, mais en fait, ces anciens, et même ici au présent, on fait tous les jours avec la nature, c'est ce que vous dites, quoi. Enfin, sinon c'est bastonné, quoi.
Oui, c'est aussi ça qui m'a porté dans Du même bois, c'était de montrer comment... Le paysage, en fait, à la fois il est autour des gens, mais il est aussi en eux, il déborde sur eux. Et quand les gens s'en vont de ce paysage-là, meurent, c'est presque comme si ça faisait un trou dans le paysage, tellement il y a une interdépendance entre le décor et les gens qui y vivent, entre la nature, entre les bêtes, entre les habitants. Il y a une vraie interdépendance et toujours des jeux de miroir et de dialogue, parce que c'est aussi... La nature, elle est presque aussi les émotions que les paysans n'expriment pas. C'est presque la nature qui l'exprime à leur place. Et ça m'intéressait, comme moi, je viens du dessin, de créer aussi des sortes d'images et de jeux de correspondance entre la neige qui tombe et qui efface le paysage, comme le grand-père qui perd la mémoire, et où dans sa tête, finalement, il y a une sorte de neige qui vient tout recouvrir et où on ne voit plus à quoi ça pouvait ressembler avant. Ça m'intéressait de parler aussi par exemple des tourbières. C'est un sol, gros, c'est comme des sortes de grandes éponges.
Qui sont fondamentales, hein, parce que d'abord, elles mettent énormément de temps à se fabriquer. Et donc, évidemment, c'est une juxtaposition de végétaux qui peut être parfois des centaines et des centaines d'années. Et alors, très, très joliment, vous dites effectivement, alors vous avez cette jeune fille qui, en fait, connaît les dangers, on va dire la lourdeur de la tourbière. Elle sent le paysage lui ôter ses bottes. Et en même temps, dans cet endroit qui fait son possible, vous le dites, pour la retenir, elle y est extrêmement attachée, parce qu'elle y trouve aussi de la force et le goût d'y revenir.
Oui, en fait, pour moi, la tourbière, c'est exactement ça. C'est un paysage qui n'est pas indifférent.
Ouais.
C'est un paysage qui tient les gens par la cheville et qui leur demande à la fois de rester Et en même temps, c'est agréable aussi parfois de sentir que le paysage nous retient physiquement, que ce soit pas juste une émotion, mais que ça se passe réellement, qu'on sente le sol nous attraper les chevilles. Et c'est ce que raconte ce passage sur les tourbières. C'est aussi il y a un autre passage qui est un peu similaire avec les voitures, les vieilles voitures qui sont abandonnées dans la forêt.
Ouais.
Et qui sont, la voiture, c'est le véhicule pour partir, c'est le voyage, c'est l'évasion. Et là, en fait, il n'y a plus de roues sur ces voitures-là. Et même, il y a des racines et il y a la végétation qui les attrape et qui les tient au sol.
On veut vous garder.
Ouais. Et c'est comme si le paysage voulait retenir ses habitants, ou en tout cas était attaché aux habitants et avait aussi quelque chose, avait son mot à dire.
C'est valable pour tous les pays, je dirais, de montagne, mais quand on attrape de l'altitude, aussi on attrape de la solitude. Et on attrape aussi, alors heureusement, solitude, mais aussi quand même force entre les gens, quoi. On est obligé de collaborer, même avec quelqu'un qu'on n'aime pas, quoi, ici.
Oui, c'est quelque chose que je trouve très beau, parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui... moi, j'ai connu ça enfant, et quand je suis allée en ville, j'ai commencé à fréquenter des gens qui venaient pas de la campagne et où finalement on côtoyait que des gens de son âge, où on entendait sans cesse de parler de « il faut pas être dans une dépendance affective, il faut pas dépendre des autres », quelque chose comme ça, où en fait, faudrait pas dépendre du paysage, faudrait pas dépendre des autres, faudrait quelque part se découper de tout contexte. Et alors que moi, j'avais grandi avec quelque chose de complètement opposé, où on me disait « mais même si mémé, elle est pénible, en fait, c'est ta mémé. Donc tu dois prendre soin d'elle, tu dois l'aider à marcher, tu dois l'aimer d'un amour inconditionnel, et quelle que soit la difficulté à aimer, en fait, on ne fuit pas l'amour, on ne fuit pas le lien, et le lien, même toxique, même peu importe, en fait, c'est du lien, et c'est ça la vie. Et j'ai le sentiment que cet endroit-là et les paysans, ils acceptent beaucoup de compromis, ils acceptent de faire des sacrifices pour s'occuper des animaux, ils vivent avec le climat, mais ils vivent avec les personnes âgées, ils vivent avec quelqu'un qui est malade, ils s'en occupent. Il y a une humanité et quelque chose qui me semblait beau à décrire, dans le sens où j'avais presque l'impression que le paysage, les humains et les animaux, c'était un grand tout. Et qu'il n'y avait pas de limite ou de frontière entre tout ça, et que finalement, ça créait des jeux de correspondance et que tout le monde apprend à la fois de la nature, à la fois des humains, enfin, que tout est enseignement et que tout fonctionne ensemble en harmonie ou en désharmonie, mais peu importe en fait.
Roxane, réveille-toi. Allez, on y va. Allez, en voiture. Tu veux conduire peut-être aussi ?
Possible, ça.
Bravo Marion Fayolle, c'est formidable, parce que vous êtes quand même jeune autrice et vous n'êtes absolument pas coupée de cette nature. C'est-à-dire qu'en même temps, vous avez été urbaine, maintenant vous revenez donc vivre ici, vous travaillez, vous créez ici, vous écrivez. Mais ce lien, il a toujours été en vous, quoi, dès l'enfance ?
Comme j'ai grandi dans ce contexte-là, avec aussi un décalage, parce que mes parents, eux, n'étaient pas paysans.
Ouais.
Et j'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents, donc c'est aussi la génération d'avant. Donc des fois, j'ai un peu le sentiment de vivre en décalage, comme si j'avais la mentalité d'une personne âgée qui ne comprend pas la jeunesse, enfin, un petit peu quelque chose comme ça. Et donc je pense que moi, mon image de référence, c'est ça. Et donc quand je vais en ville, je peux apprécier la ville, je vois les atouts de la ville et je peux en jouir. Mais je trouve aussi que c'est agressif. Et je trouve que des fois, c'est plus dur que la burle, en fait, de se balader dans une rue et de se rendre compte que si on veut faire quelque chose, on doit forcément acheter, par exemple. Ouais. C'est pas évident pour moi. C'est quelque chose que je trouve difficile, pénible et dur à vivre. Et je pense qu'au moment de devenir maman, j'ai eu besoin de retourner à la campagne aussi, parce que je me suis posé la question de quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Et c'était impossible pour moi de m'imaginer maman d'un enfant qui grandirait sur le bitume. C'était clair et net qu'il fallait qu'on retourne à la campagne, il fallait aussi qu'on ait des animaux. Je pense que par les animaux, j'ai appris énormément de choses sur la vie. Et que peut-être que mes grands-parents ne parlaient pas beaucoup des émotions, on n'allait pas leur poser des questions sur la sexualité ou j'en sais rien. Mais ça se passait sous nos yeux, en fait. Ouais, il y avait des animaux qui mouraient, il y avait des naissances. Et
il y avait le taureau qui montait sur la vache.
Voilà, et quelque part, en fait, c'était de côtoyer les animaux qui aussi nous initiaient, ouais. Nous faisaient prendre conscience de la finitude, du cycle, de plein de choses comme ça. Et j'avais l'impression qu'en tant que maman, on ne pouvait pas élever son enfant, juste un humain qui élève un enfant. Il fallait aussi toute cette constellation et toutes ces choses-là autour pour éduquer un enfant. Ça me paraissait nécessaire et je pense que du même bois, au-delà d'être un texte que j'avais envie de partager avec des lecteurs, c'était aussi l'envie de fixer des souvenirs pour pouvoir les transmettre aussi à mon fils.
Les bêtes à cornes.
Voilà, les vaches.
Ah ouais. Elles rythment aussi totalement vos pages. Hein. Elles sont là, dans le paysage, mais elles sont pas que le paysage. Elles sont mariées, évidemment, aux humains.
Elles sont les animaux qu'on élève, dont on s'occupe, qui vivent dans la maison, presque dans la maison, ouais, juste on les entend derrière les murs. Pour moi, c'était aussi très important que ce soit des bêtes à la fois au sens propre et au sens figuré, et que ça soit aussi des bêtes qui soient certes dans la ferme, dans le paysage, mais qui soient aussi les bêtes intérieures et les bêtes avec lesquelles on doit vivre en soi. Parce que très vite, je me suis rendu compte que c'était aussi de ça que je voulais parler. De qu'est-ce que ça voulait dire d'hériter des bêtes au sens d'hériter d'un troupeau, mais aussi les bêtes dont on hérite, les bêtes à savoir peut-être de la mélancolie ou des colères ou des choses comme ça qui seraient en nous et qui auraient ce côté animal dans le sens de parfois prendre le dessus, ne pas être contrôlable, avoir quelque chose d'indomptable aussi en soi. Et je pense que c'était ces questions que j'avais envie de pouvoir aussi traiter de façon symbolique.
Restez avec nous, vraiment, n'hésitez pas, avec Marion Fayolle, donc, qui est riche de mots et aussi riche de son Ardèche. Ah, on traverse quoi ? Ah, on traverse les Alpes, écoutez.
Ho perso il cuore d'un amico vero. Ho perso tutti e non ho più nessuno. Ho dato amore ma non sono stato sincero ed ho mentito senza rimorso alcuno. Ho avuto un padre, dico un padre vero, che mi ha mostrato cosa vuol dire essere uomo. Ma ho scelto di voler restare bambino, di non seguire l'esempio di nessuno. Ho perso il cuore ed il mio amore vero, l'ho perso ed ora non so più chi sono. Ho dato amore ma non sono stato maturo e senza amore dovrò vivere. Le ho regalato tutto ciò che avevo, ma quel che avevo poi non era molto e ho preso tutto derubando il destino. Ma il destino non è preda facile, forse ho mentito sempre, o forse sono troppo sincero, e da una fragile mente, o sono solo immaturo, o più probabilmente non voglio pensare al futuro, perché sono quasi sicuro che sbaglierò per sempre. Nessuno.
Andrea Laszlo de Simone, un momento migliore, et autrement dit un meilleur moment. Un garçon d'ailleurs aussi qui reste dans son coin tranquillement à la campagne en Italie, ne fait pas de promotion, il n'a pas envie d'en faire, ça nous le rendrait presque tout à fait sympathique. Bon, alors un meilleur moment, on l'a ce meilleur moment donc avec Marion Fayolle. Nous sommes en Ardèche, vous l'avez compris. Venez respirer là-bas, cet air vif, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, vous verrez. Je ne vais pas dire dépaysement, mais plutôt paysement merveilleux garanti dans ce département. Alors ici, il y a assez de montagnes pour empêcher les éclaboussures des villes et nous poursuivons notre petite virée avec Marion Fayolle, là, pas loin des hauts plateaux en Ardèche, et son ouvrage du même bois. Alors, on ne va pas croiser une de vos héroïnes, que vous appelez d'ailleurs la gamine, et puis après, qui devient mère de famille, et qui est aussi donc à la fois complètement imprégnée de nature, qui n'a pas eu son père quand elle était petite, mais qui va le retrouver quand même pas loin d'un pas maritime, qui est juste là. Et ça, c'est extrêmement important, quoi, aussi, la symbolique de l'arbre et de cette jeune femme qui va retrouver son père au pied de cet arbre.
L'arbre, c'est presque la réincarnation du père.
Eh oui.
Les cendres du père ont été répandues autour d'un arbre, et d'un arbre un peu spécial, comme le père pouvait être spécial. L'arbre, ce qui est beau, c'est qu'il est un peu biscornu, et puis surtout, il a des bras, on dirait que ses branches sont des bras. Par exemple, à droite, on a l'impression que la branche vient nous chercher pour nous consoler.
Oui.
Et c'est ça aussi que j'avais envie de montrer dans le livre. L'arbre est à la fois le père de la gamine, et il est aussi une sorte de grand consolateur avec de grands bras pour venir accueillir les tristesses.
Bon, vous avez véritablement besoin de ce lieu. Il y en aura sûrement d'autres dans d'autres livres, ce que l'on vous souhaite. Mais pour poser votre plume aussi bien dans la sève des arbres, aussi bien dans la rivière là, qui est en dessous, aussi bien sur ce plateau, vous avez besoin de ça, quoi.
Ce qui est assez étonnant, c'est que quand je dessine, il n'y a pas de paysage. Mes personnages sont toujours sur des fonds blancs. Et quand j'écris, le paysage est le personnage presque. Il est le personnage principal, donc ça m'étonne moi-même. Je pense que l'écriture, c'est quand même un dévoilement peut-être un peu plus grand que le dessin. Mm-hmm. Et que l'endroit d'où on vient et ce qui nous constitue fait peut-être plus vite surface.
Ouais.
Quand je dessine sur des fonds blancs, pour moi, mes personnages sont sur le plateau Ardéchois. Ils ne sont pas sur des fonds blancs. Enfin, pour moi, le plateau Ardéchois, c'est une sorte de fond blanc.
C'est la neige.
C'est la neige, c'est le désert, c'est un plateau aussi comme le plateau de théâtre. C'est un endroit entre où il y a juste le sol et le ciel, quoi. Donc c'est une sorte presque de paysage très minimaliste ou presque un absolu aussi. C'est un endroit qui n'a pas été abîmé, qui est encore sauvage, préservé. Et donc en ça, c'est à la fois un lieu qui existe, mais c'est presque aussi un lieu imaginaire.
Moi, le
Ne lui donne pas ça, Émile. C'est plein de sel et de nitrite. Toi non plus, tu devras pas manger ça. Manger, c'est comme parler. Ça définit quel être humain tu es. Non, mieux, la façon dont t'existes au monde.
Je vois pas encore manger des chips, ça fait que j'existe pas au monde.
Très profondément, les gens mettent pas forcément des mots sur tout ça, et ça, c'est votre boulot. Il semble que c'est par là qu'il faut aller, quoi.
Je pense que les gens se sentent aussi très seuls. Il y a beaucoup de gens qui se sentent
seuls en ville.
Oui, seuls en ville, très, très déconnectés en fait. On est très connectés, mais on est très déconnectés. On n'arrive plus à rester une journée sans nos téléphones. On ne sait plus se repérer tout
sans,
seul.
Sans
GPS, on sait plus quels sont les champignons qu'on pourrait manger. Quels sont, en fait, on s'est complètement coupé de plein de connaissances et de sens. Qui contribue aussi à être ancré et à se sentir, je pense, appartenir à un grand tout.
Mmh.
Et sur le plateau Ardéchois, il y a eu un moment où beaucoup de gens partaient, où il n'y avait plus que des personnes âgées. Mais moi, aujourd'hui, quand j'y retourne, j'ai, je pense, presque plus d'amis que j'en avais en ville, parce que j'ai beaucoup de gens de ma génération qui ont repris des fermes et qui réécrivent l'histoire de leurs parents, parfois de la même façon, parfois en y apportant des changements. Pas mal de néo-ruraux aussi qui viennent auprès de ces gens-là s'instruire pour connaître le territoire sur lequel ils s'installent et imaginer quelque chose, quoi.
Alors, la nature est bien sûr très présente, hein, c'est le personnage aussi dans votre ouvrage. J'ai dire ici, vous avez un coup d'avance, mais sur, comme je pourrais citer aussi pas mal de territoires de France que j'ai la chance de parcourir, parce que quand même on a une certaine altitude, parce qu'on a du frais, parce qu'on a encore de l'eau, et on sait très bien que les guerres de l'eau elles vont commencer par être locales et que ça ne va pas rigoler. On a à la fois cette montagne qu'on a envie de dépasser, parce qu'il y a des moments où ça devient peut-être étouffant, puis en même temps elle vous protège ici.
C'est une montagne bulle, donc l'autre jour, mon fils mettait un de ses petits animaux sous un verre et il me disait « Maman, est-ce que tu penses que c'est une protection ou une prison ?»
Joli.
Et je crois que je crois qu'il avait déjà compris beaucoup de choses et je pense qu'ici, c'est ça, c'est à la fois on est protégé, à la fois on peut par moments se sentir emprisonné et c'est toute l'ambivalence de ce territoire.
Sur le plateau, oui, on peut se sentir emprisonné, mais quand même, là, le regard porte loin, hein. Il n'y a pas de problème.
Oui, bien sûr, emprisonné dans le sens pour partir, on est loin de tout, en fait. C'est l'avantage, c'est qu'on est loin de tout, donc c'est pénible, parce qu'on ne peut pas partir, mais du coup, ça préserve le paysage, et c'est à la fois la contrainte et à la fois la plus-value de cet endroit. Quelque part, le fait que ces territoires aient été protégés d'une forme de modernité, du fait qu'ils soient enclavés ou peu importe le mot qu'on peut employer, c'est aussi peut-être les territoires qui sont les plus en avance sur le futur. Parce qu'ils n'ont pas à défaire des choses qui auraient été mises en place. En fait, ça n'a jamais eu lieu. Donc voilà, moi quand j'entends plein de gens qui se mettent dans des mouvements vraiment de décroissance, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, mais sans être militante ou extrême là-dedans, mais je me dis, en fait, ils font juste comme ma grand-mère. Donc si aujourd'hui ma grand-mère devait... elle n'est pas du tout écologiste, ni militante, ni rien du tout, mais dans sa vie, finalement, elle prend soin de la planète et elle n'a jamais été dans une surconsommation où elle s'est jamais mise à dépendre de choses superflues, donc elle n'a pas aujourd'hui à devoir apprendre à s'en défaire.
Marion Fayolle, ce qui est très bien avec cet ouvrage, c'est que, en fait, oui, ça part de l'Ardèche, oui, c'est votre berceau, oui, tout est posé ici, mais en fait, il y a un côté un peu universel dans cette histoire.
En fait, c'était très important pour moi de dépouiller le plus possible, de ne pas nommer précisément les villages, de ne pas nommer les personnes, parce que je cherchais justement à... Je ne voulais pas faire un livre sur le terroir, je voulais faire un livre qui contienne suffisamment d'espace et de vide et de trous pour que ça puisse être l'histoire de beaucoup de gens et pour trouver l'endroit où mon histoire, c'est pas la mienne, mais c'est notre histoire. Enfin, c'est quelque chose qui peut être habité par d'autres vies, d'autres expériences et même d'autres territoires. Donc ça comptait énormément.
Alors ce qui est bien, c'est que justement, Fayolle, c'est quand même... On revient sur l'arbre, hein, c'est le faillard, c'est le être.
Oui, c'est ça. Et moi, j'aime bien aussi y entendre le mot « faille ».
Il s'écrit pas pareil.
Je vois un peu. J'ai l'impression que le mot, enfin que Fayolle contient à la fois l'arbre et à la fois c'est un truc un peu géologique de fissures ou de petites failles.
Oui, mais ce que nous sommes tous comme êtres humains, quoi.
Enfin, oui.
Et d'ailleurs, vous cherchez pas à combler les failles, vous cherchez à les comprendre.
Oui, à les accepter en tout cas.
À les accepter. Mmh. Ouais. On vous souhaite le meilleur, chère Marion, et puis à très bientôt. Merci à vous.
Merci à vous. Au revoir, Denis.
Et donc, c'est un régal avec une poésie assez âpre qui raconte cette histoire familiale du même bois donc, qui est sorti chez Folio. Merci à Rémi Sissiaga qui a mixé ce reportage, à Camille Blanès et Juliette Gou qui a réalisé, colorisé donc, cette émission. Thierry Dupin a choisi les disques. Alors, il y aura de la musique, mais elle va être très différente. Elle va venir des arbres, elle va venir du ciel la semaine prochaine. Je vous emmène dans ce département de la Somme. Nous allons partir non loin de Cailleux-sur-Mer, avec Johnny Rass et Jean Boucau. Ce seront donc les chanteurs d'oiseaux. Et là, ça va être un véritable régal. Je vous le disais, donc printemps garanti et bien-être aussi garanti. On se retrouve sur Instagram, sur LinkedIn, sur Blue Sky. Et puis l'application Radio France. Surtout, ne vous gênez pas. Abonnez-vous donc au podcast de CO2, mon amour, et faites circuler. Allez-y, ne vous gênez pas. Il me reste plus qu'à vous souhaiter quoi ? Eh ben, une très bonne fin de dimanche.